à l'honneur qui m'a été fait par le docteur Guillaume. Cela m'a permis effectivement de préfacer son ouvrage. Son ouvrage qui est marqué par ce qu'on peut appeler un positionnement afrocentrique. C'est quoi un positionnement afrocentrique? C'est la capacité pour un Africain, pour un acteur humain, pour un sujet qui se reconnaît africain, de regarder le monde à partir d'une perspective propre et autonome, d'une perspective centrée sur l'Afrique. Cette perspective centrée sur l'Afrique est évidemment orientée dans un sens décolonisateur, et pas seulement décolonial, décolonisateur. L'afrocentricité, en tant que mouvement de pensée, a été formellement initié par un penseur et savant africain-américain qui s'appelle Molefi Kete-Asante, qui a alors décidé de rompre avec sa formation initiale qui était essentiellement eurocentrique. Ça veut dire qu'il regardait le monde à partir d'une perspective européenne qui est celle qui lui avait été transmise à travers son éducation. Mais avant même que cette théorie de l'afrocentricité ait été formulée, les inspirations qui en relèvent existaient déjà depuis le 19e siècle. Un certain nombre de penseurs, de savants, de chercheurs et d'activistes africains, américains et afro-caribéens ont développé ce regard qui visait à donner à leur identité africaine un statut central dans leur manière de regarder le monde, dans leur expérience avec le monde, dans ce qu'on appelle le rapport au monde. C'est dans le même esprit que le docteur Ludio s'inscrit. L'afrocentricité met donc l'accent sur la spécificité et l'originalité culturelle et civilisationnelle des Africains. Les Africains, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres anthropologiques et en tant qu'êtres historiques, ont des formes originales, spécifiques, singulières de culture et de civilisation. Et cela se traduit évidemment dans le regard qu'ils portent sur les choses de l'esprit. Et c'est à cela que s'attelle le docteur Lindjom, en partant de son substrat culturel qui relève de la culture Bamoum, Bamoum comme on veut, et à partir donc de son rapport avec sa culture, il essaye d'en reconstruire la spiritualité et la sacralité. Et comme le premier livre, le second est basé sur une théorie des formes de la spiritualité et des formes de la ritualité dans la culture Bamoum. Dans cet effort, l'auteur insiste sur l'origine, et l'origine est au cœur du premier des cinq livres à travers lesquels il construit sa démonstration. Ici, je parle des cinq livres comme moment qui compose l'ouvrage. Je ne parle pas de cinq livres comme ouvrage spécifique. Le premier livre qui ouvre cet ouvrage se pose la question de l'origine. D'où venons-nous, comme le dit l'auteur? Et pour l'auteur, les Bamoum viennent du berceau civilisationnel africain tel qu'il a été reconstruit par Cheikh Anta Diop, qui est l'un de ses auteurs de référence. Pour Diop, le berceau civilisationnel africain se situe dans la vallée du Nil. Et ce berceau civilisationnel africain est construit à partir de la Nubie et de l'Égypte. Le nom traditionnel de la Libye, c'est Kash ou Kush. Le nom traditionnel de l'Égypte, c'est Kemet. C'est donc à quatre couches qu'on peut retrouver les sources fondatrices de l'ensemble de l'Afrique. Et ce qui est donc vrai pour l'ensemble de l'Afrique est aussi vrai pour une partie de l'Afrique, cette partie spécifique de l'Afrique, qu'est ce qu'on pourrait appeler ici le pays Bamoun. Et pour l'auteur, la théorie de la spiritualité et de la ritualité chez les Bamoun est en réalité une combinaison de ce qu'il appelle les sources kamites, c'est-à-dire les sources qui sont rattachées donc à la Nubie et à l'Égypte, et des sources bantoues. Et là, il faut faire une précision. Les sources bantoues ne sont pas différentes des sources kamites, parce que précisément dans les livres sacrés égyptiens, et notamment dans le livre de la sortie du jour, qu'on appelle faussément le livre des morts, il est dit, ce sont les Égyptiens anciens qui parlent, nous venons des pays des montagnes de la lune. C'est comme cela que dans ce livre sacré, qui est le premier livre sacré enregistré et matérialisé par la recherche scientifique de l'histoire humaine, il n'y a pas, jusqu'à plus ample informé, jusqu'à ce qu'on trouve de nouveaux documents, un livre qui est plus ancien que le livre des morts, entre guillemets, comme on l'appelle improprement, des Égyptiens. Et dans ce livre-là, les Égyptiens disent, nous venons des pays des montagnes de la lune. Où se trouvent donc ces pays des montagnes de la lune? C'est dans l'Afrique des Grands Lacs. C'est dans l'Afrique des Grands Lacs où on a de grands sommets montagneux qui sont recouverts de neige, ce qui a une caractéristique assez particulière puisque nous sommes au milieu de l'Afrique équatoriale. Comment en Afrique équatoriale on peut avoir des montagnes enneigées? C'est ces montagnes enneigées qui sont les pays de la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Égyptiens anciens eux-mêmes situent leur origine dans un espace qui est largement occupé par ce qu'on va appeler la culture bantoue. Et c'est quoi cette culture bantoue? En réalité, et c'est l'une des occultations de l'histoire dominante, cette culture bantoue, c'est ce que les Égyptiens appelaient Punt. En réalité, Punt, Puntu, Puntio, c'est bantou. Vous savez qu'en linguistique structurale, P et B sont exactement la même chose. Donc, la culture kamite et la culture bantou, c'est la même chose, puisque les Égyptiens se reconnaissaient une double origine. Une origine dans ce qu'ils appelaient Taneteru, c'est-à-dire la terre des dieux. Et ce Taneteru, c'est le cœur même de l'Afrique centrale, donc dans l'Afrique des Grands Lacs, en se reconnaissant comme ancêtre ce qu'ils appelaient les Bakou ou les Dengou, c'est-à-dire qu'on appelle improprement et de manière péjorative, selon une vision eurocentrique, les Pygmées. Pour les Égyptiens, les Pygmées, entre guillemets, étaient leurs ancêtres. Pour les Égyptiens, les gens du pays de Punt étaient leurs ancêtres. Donc en réalité, le jeu des origines est un jeu complexe avec des interactions. Autant nos cultures et nos fondements civilisationnels sont liés à la vallée du Nil, autant la vallée du Nil elle-même nous est reliée. Et elle nous est particulièrement reliée dans l'espace de ce que nous appelons le Cameroun et le Nigeria, mais ce n'est pas le sujet ici. C'est donc une anthropologie philosophique, ce livre, même si son but n'était pas nécessairement une philosophie de type académique, ne peut pas ne pas être philosophique, puisqu'il s'interroge sur le sens de l'être, sur le sens du monde, et sur le rapport de l'homme au monde et à l'être. Il est nécessairement philosophique et particulièrement métaphysique. Mais cette préoccupation philosophique et métaphysique est en fait motivée par une autre préoccupation qui pour l'auteur est plus importante. Et cette préoccupation-là, elle est cosmique. En recherchant le sens de l'être et du monde, l'auteur veut avoir une lecture de l'univers qui donne un sens à l'univers. Et c'est cette lecture de l'univers, cette lecture cosmique qui le conduit à ce qu'on peut appeler une cosmothéologie. Et en cela, il est conforme justement aux orientations spéculatives de la théologie égyptienne. La théologie égyptienne n'envisage le monde qu'en posant le monde comme quelque chose qui est le produit de puissance qu'on peut appeler commodément dans notre langage, influencé par l'eurocentrisme, Dieu. Bon, il y a un concept plus ou moins équivalent, même s'il ne veut pas dire strictement la même chose, c'est le concept néther. Le concept néther des Égyptiens qui renvoie à l'idée qu'il y a des forces qui gardent, il y a des forces qui protègent, et ces forces-là, en fait, ce sont les ancêtres. Les néthérou, ce sont les ancêtres, ceux qui protègent, parce qu'ils sont les plus anciens. Cette anthropologie, donc, est reliée au filon égypto-nubien, on l'a déjà dit. Et dans cette anthropologie cosmothéologique, l'auteur insiste particulièrement depuis le premier livre sur ce qu'il appelle la théologie solaire Bamoun, le maître qui a été théorisé notamment par le sultan Djoya, qui a repris donc un certain nombre des conceptions spirituelles et initiatiques de cette culture Bamoun, et qui les reprend conformément à un filon, à un sillage ancien qui est égyptien. Au cœur de la théologie égyptienne, la référence au soleil est la référence décisive. Elle n'est pas exclusive. Il y a une théologie lunaire, par exemple, dans la théologie égyptienne, mais ce qui est le plus important, c'est la théologie solaire. Et c'est la théologie solaire qui est au cœur de toute la civilisation égypto-nubienne. L'auteur nous montre donc que chez les Bamoun, comme chez les peuples voisins et apparentés, parce que, comme le disait Anta Diop, à un degré ou à un autre, toutes nos cultures sont apparentées, cette théologie solaire-là est importante. C'est grâce à cela donc qu'il construit donc son enquête. Et cette enquête, c'est une enquête sur la dynamique historique des Bamoun. L'auteur n'étudie pas seulement d'où nous venons, il étudie également le chemin, le parcours. Et il étudie la manière dont ce parcours s'est fait. Et en étudiant donc ce parcours, il montre comment, à travers la spiritualité et la ritualité, l'homme Bamoun s'est construit. C'est ce qu'on appellerait en termes sophistiqués une anthropogenèse. Il montre également qu'à travers cette construction de l'homme, il y a aussi une construction du collectif, c'est-à-dire des relations sociales entre les hommes, entre ceux qui constituent donc le peuple Bamoun comme communauté et comme nation. Parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'a dit l'anthropologie coloniale, nos peuples sont bel et bien des nations et des nationalités. C'est le discours colonial qui les ravale pour en faire des peuplades, des tribus, des ethnies. Ce sont bel et bien des nations et des nationalités. Et aucun de ces peuples, et c'est même vrai chez les Bamoun, n'est monolithique. Toutes nos communautés sont plurielles, ça veut dire qu'elles ont des origines complexes. Et dans ces communautés se retrouvent toujours des gens qui viennent d'ailleurs et des gens qui en réalité sont adoptés et naturalisés. Exactement comme nous pouvons naturaliser des gens qui viennent de l'extérieur du Cameroun ou comme les Américains, les Français peuvent naturaliser des Camerounais ou des Nigériens. L'auteur met aussi l'accent, et c'est un élément important de son propos, sur l'ancestralisme. Pour montrer que la religion africaine, si on peut parler de religion, d'autres estiment que le terme religion pour parler de la spiritualité africaine est réducteur, mais bon, ça ce sont un peu des querelles byzantines, ce sont des querelles un peu sectaires. Tout cela, les formes spirituelles et les formes religieuses sont toujours interconnectées, mais ce qui est fondamental, c'est la spiritualité. La religion n'est que la forme organisée, instituée, et la forme de pouvoir qui organise, disons, des trajectoires spirituelles. Il montre donc que La religion Bamoun, s'inscrivant donc dans la religion afro-égyptienne, est basée sur l'ancestralisme. Et c'est un élément fondamental de son culte. Les Africains qui se mettent en recherche spirituelle pour retrouver leur trajectoire, leurs origines, doivent être conscients de cela. Sur le plan spirituel, même si l'Afrique n'a pas le monopole de l'ancestralisme, c'est l'Afrique qui en est la matrice, puisque l'Afrique est la matrice de toute la spiritualité terrestre. Il n'y a pas une spiritualité qui existe sur cette terre qui n'ait de lien avec l'Afrique. Mais évidemment, comme l'homme a toujours une capacité de créativité et une capacité de recréation, les peuples à qui l'Afrique a enseigné la spiritualité, parce que c'est l'Afrique qui a enseigné la spiritualité au reste du monde, l'ont également façonné en fonction de leur propre expérience du monde. Mais la spiritualité est fondamentalement africaine. Voilà pourquoi tout à l'heure, la lecture critique insistait sur le fait que le catholicisme peut se retrouver. Mais bon, je rirais, le catholicisme n'est que la réécriture de la spiritualité égyptienne. Tout ce qui est dans le catholicisme vient de l'Égypte. Ce n'est pas parce qu'on ne nous l'a pas dit que ce n'est pas vrai. Tous les gestes, tous les principes liturgiques, la liturgie de la parole, la liturgie de la chair sont égyptiens. Les encens, et tout le reste, c'est égyptien. Les noms même de Dieu, tous les noms de Dieu sont égyptiens. Et l'auteur met donc l'accent sur l'ancestralisme. Autre chose qui est très intéressante, c'est qu'en étudiant donc la spiritualité africaine, l'auteur nous montre que nous devons réhabiliter et surtout réactiver les chartes qui sont associées à cette spiritualité africaine. Parce que toute spiritualité produit des chartes. Comme nous sommes aujourd'hui dans l'hégémonie de la culture écrite, encore que même la culture écrite, contrairement à ce que on nous a enseigné, est d'origine africaine. Tous les systèmes d'écriture qui existent sur cette terre dérivent de deux peuples africains, dont un peuple africain installé en Afrique, le grand peuple nubio-égyptien, et un autre peuple africain installé en Asie, mais dans le voisinage, qui est cousin du peuple afro-nubien-égyptien, qui est le peuple cananéen. Ce sont ces peuples qui ont créé ces systèmes de signes que nous appelons l'écriture. Les écritures, comme l'écriture chinoise, comme l'écriture arabe, dérivent de certaines formes de l'écriture égyptienne, notamment de ce qu'on appelle le hiératique. L'écriture que nous utilisons aujourd'hui, l'écriture gréco-romaine, dérive directement de l'écriture phénicienne et cananéenne, qui, elle, est également liée à certaines formes de l'écriture égyptienne, notamment l'écriture dite démotique. L'auteur met l'accent, et c'est un élément aussi important, dans son travail sur ce qui est la clé de la spiritualité. Comment élucider le rapport entre la vie et la mort. Et ce rapport entre la vie et la mort, quand on essaye de l'élucider, il y a toujours un problème qui se pose. C'est que la tentative de faire la lumière sur les rapports entre la vie et la mort se heurte toujours à la question du mystère, ce que l'auteur appelle le mystère de la vie, woman, et de la mort, wu. Il montre donc la dialectique, le rapport de tension, d'opposition, mais aussi de complémentarité qu'il y a entre la vie et la mort. L'auteur insiste aussi, et nous en avons presque terminé, sur le Ngwen, en montrant comment le Ngwen, en tant que symbolique, est très important dans la spiritualité du peuple Bamoun, avec notamment un signe qui est le signe du scarabée. Or, vous savez que ce signe du scarabée est un élément très important dans la pensée égyptienne, qui a d'ailleurs consacré toute une référence divine au scarabée qu'on appelle Képer, pour évoquer notamment la transformation, le mouvement dans l'univers. Tout cela pour dire que, en réalité, dans la pensée Bamoun, on retrouve un trait récurrent de la pensée égyptienne au niveau spirituel, qui est la recherche de l'équilibre harmonique. Parce que pour les Égyptiens, l'univers était gouverné par la loi de l'harmonie. Cette loi de l'harmonie qui se retrouve d'ailleurs dans certaines formulations initiatiques, où on vous fait croire que ce sont des choses nouvelles, inventées ailleurs, alors qu'en fait ce sont des choses qui viennent de l'Afrique. Quand dans certaines loges, on vous dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, en réalité, c'est l'expression de cette régulation harmonique que les Égyptiens ont symbolisée par la référence à Math. L'auteur montre ici, à travers le symbole du scarabée utilisé dans la spiritualité Bamoun, qu'on essaye également de s'inscrire dans cette régulation harmonique de l'univers. Et le scarabée est donc le médiateur, ce qui relie ce que l'auteur appelle le grand monde, le macrocosme, qui est le monde divin, et le microcosme, qui est le monde, l'univers visible, l'univers que nous voyons. L'univers ici naît la reproduction à l'échelle de ce qui est en bas ou de ce qui est petit, du grand monde qui est le monde divin. Voilà, mesdames et messieurs, dit à ma manière, ce que l'auteur a exprimé dans cet ouvrage. Cet ouvrage qui est une recherche très importante et une recherche qui s'inscrit en particulier dans la perspective pour les Africains de retrouver une voie spirituelle propre, une voie spirituelle autonome. Mais, et là on pourrait toujours questionner l'auteur, dans cette recherche d'une voie spirituelle autonome, qui est tout à fait légitime, on trouve toujours le rapport aux autres. Parce qu'en réalité, en matière spirituelle, je vous le réitère, l'Afrique est la matrice du monde. Tout ce que vous voyez comme spiritualité, même si certains des afrocentriques considèrent ça comme déformé, n'est en réalité qu'un reflet de ce que l'Afrique a transmis au monde. Je vous remercie.